Bonjour Damien Sommet.
Bonjour, monsieur Latier.
Les pêcheurs artisanaux des côtes africaines pourraient-ils bientôt manquer de poissons?
Alors, il y a des risques élevés quand on voit un peu les taux de surpêche et de pêche illégale. Et ce que nous relatons dans notre rapport, c'est que ces communautés sont en danger parce que la surpêche entraîne une diminution des stocks de poissons et donc les oblige à aller de plus en plus loin dans la mer pour pouvoir faire des captures. À l'immédiat, c'est déjà la diminution croissante des stocks de poissons à leur disposition. Mais quand on pense dans une vision de pêche durable, on peut concevoir que les générations futures viendraient à manquer de poissons si cette pratique néfaste continue.
Au Sénégal, par exemple, il y aurait plus de 50 000 pêcheurs, des milliers d'autres personnes dépendent du secteur. Est-ce que cela signifie que leurs emplois sont menacés si rien n'est fait?
Exactement. Et c'est là tout le mal de la pêche illégale. Et il faudrait que l'opinion publique et les sociétés civiles en prennent conscience. C'est qu'elles privent les communautés côtières de leur gagne-pain. Parce que pour eux, le poisson signifie tout. Leur travail, leur principale source de revenus. Et c'est un élément essentiel pour la sécurité alimentaire pour ces communautés locales.
Quel est le manque à gagner pour l'Afrique du pillage des côtes africaines?
On estime que rien que pour la zone de l'Afrique de l'Ouest, c'est environ 1,3 milliard de dollars de perdus chaque année, ce qui est énorme quand on voit la contribution que cela pourrait apporter aux politiques de ces États, que ce soit en matière d'éducation, de santé ou d'assainissement.
D'où viennent les bateaux qui pratiquent le plus la surpêche et la pêche illicite?
Alors, selon les résultats de notre rapport, on constate une forte présence des navires européens, mais ce ne sont pas que les navires européens, parce qu'on a vu aussi qu'il y avait des navires qui venaient de contrées lointaines comme la Chine, l'Asie du Sud-Est en général, mais aussi de Russie.
Et pourquoi, ces navires naviguent en toute impunité?
D'une part, il y a la défaillance du système international à réglementer un peu cette pêche illégale. Et de l'autre côté aussi, il y a ce que j'appellerais la défaillance de la part des États côtiers eux-mêmes, que ce soit lors de la passation des contrats de pêche ou même de la mise en pratique de ces accords de pêche.
Les subventions dont bénéficient les flottes venues de l'Union européenne, de la Russie, des pays asiatiques, favorisent-elles, d'après vous, le pillage des ressources africaines?
Disons au moins une partie de ces subventions, parce que ce n'est pas tous les navires qui s'engagent dans cette activité illégale. Mais pour le cas des navires qui pêchent impunément en Afrique, nous avons souhaité dans notre rapport que les pays qui accordent des subventions devraient au moins arrêter de subventionner tous leurs navires qui s'engagent dans la pêche illégale au large des côtes africaines.
Les chalutiers rusent le plus souvent, ils changent d'immatriculation, ils changent de nom, ils échappent ainsi au contrôle des autorités. Quelle serait la réponse la plus appropriée pour lutter contre ces pratiques?
Si par exemple on a un registre qui permet de tracer un peu tous ces navires qui battent pavillon de complaisance, donc nous pensons que ces navires peuvent être plus suivis et que le contrôle peut être aussi rigoureux.
Qu'est-ce que vous entendez par pavillon de complaisance?
Prenons par exemple un bateau de pêche russe qui décide de s'enregistrer au Libéria, c'est un exemple. C'est pas de telles pratiques souvent aussi que les bateaux de pêche arrivent à se dérober un peu à la vigilance, aussi bien des États locaux que de la communauté internationale.
Damien Sommet, cette année au Sénégal, la justice a condamné lourdement un chalutier russe pour pêche illégale. Au Libéria, l'an passé, deux navires sud-coréens ont aussi été condamnés. Est-ce le signe que certains États ne veulent plus se laisser faire?
Ces actions prises par ces États sont impressionnantes. Ce qu'on remarque à travers ces cas, c'est que les États africains de plus en plus sont décidés à prendre les actions qu'il faut, mais il faudrait que ces actions continuent. C'est une bonne nouvelle de voir que des États comme le Sénégal s'engagent fermement dans la lutte contre ce fléau.